Je vis ma foi méditation sur le samedi saint, le 8 avril 2023. Imaginez-vous. Imaginez-vous, apostrophe lancée habituellement comme un avertisseur que les mots et les concepts ne pourront rendre compte pleinement du récit qui s'annonce. Et combien il est vrai que l'imagination est une faculté spirituelle essentielle dans nos vies affectives et de foi. Dans la spiritualité ignatienne, comme dans la Bible, elle occupe une position centrale. Moïse détruit le veau d'or parce que le peuple l'enferme, enferme Dieu dans une seule image, alors que les alliances vétérotestamentaires abondent d'images pour éviter la facilité mentale de toute réduction trompeuse. La résurrection du Christ, personne n'y a ici. La résurrection du Christ, personne n'y a assisté, et si on en croit les quatre évangélistes, contrairement à la crucifixion, l'événement ne relève pas de la science historique, sinon pour constater à partir de traces du passé que des hommes, à une époque précise, y ont cru et l'ont proclamé. Mais nous savons quand elle a eu lieu, un premier jour de la semaine, un dimanche, comme pour signifier la vérité de cette nouvelle création. Le Christ n'est-il pas le nouvel Adam? Si nous vivons la veillée pascale, ce n'est pas parce que c'est la veille du jour de renaissance, mais pour nous inviter à demeurer en éveil à ce mystère de vie. Souvenons-nous, Jésus est mort le vendredi dans l'après-midi. Le sabbat se pointe légalement au coucher du soleil, et tout le samedi dans la nuit, et sous la lumière du jour qui s'impose, son silence demeure. Dieu se tait parce que sa parole est enfouie dans la tombe et dans la mort. À l'aurore, le sabbat se termine dans les ténèbres de la nuit, ouvrant la voie au jour suivant. Dieu peut alors agir. Il redresse, ressuscite et recrée à nouveau. Il surgit telle une lumière divine dans la noirceur nocturne, mais d'une manière aussi tout à fait discrète. Car dans l'obscurité naturelle, personne ne circule dans une ville sans éclairage public. Selon les trois derniers évangélistes, le travail des femmes sur le corps de Jésus ne peut commencer qu'au matin. Matthieu est très explicite. La liturgie traduit ce moment de la sorte « Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Contrairement à ce qu'on peut lire dans les autres évangiles, les deux Maries ne viennent pas pour embaumer le corps. L'onction de Béthanie en Matthieu 26 a sans doute remplacé symboliquement ce rite, mais pour rendre une visite pieuse chargée de souvenirs. Un désaccord entre les quatre évangiles. Il est vrai que les différences de détails ne manquent pas, mais ce serait une erreur d'oublier que ces récits n'ont connu leur forme définitive que des décennies après la résurrection du Christ, suite à un lent travail de mémoire et de relecture au sein de jeunes communautés de croyants. Sans prétendre à une exégèse élevée, la brièveté des textes d'apparition est une invitation à les relire en ces temps de Pâques, à les méditer, scrutant les originalités propres et aussi les convergences entre nos quatre auteurs. Une manière féconde de goûter le mystère de la résurrection. Et pour le coup, quel que soit l'évangile, ce sont bien des femmes proches de Jésus qui sont les premières témoins de la résurrection. À ce jour de Pâques de l'année A, suivons tout simplement Matthieu dans son récit. Contrairement aux évangiles apocryphes qui se sont laissés aller une débauche spectaculaire, délirante et naïve, dans l'évangile de Philippe, on peut lire qu'au sortir du tombeau, Jésus est devenu un géant de 3, 4, 5 mètres. On se croirait dans un Harry Potter. Et il présente plutôt un ressuscité manifesté au tout venant. Les quatre canoniques, par contre, eux, s'accordent sur la discrétion de la résurrection. Personne n'y assiste, et le vivant n'apparaît seulement et de manière privilégiée qu'à ceux qui l'ont connu et aimé. Matthieu accorde tout au plus un tremblement de terre, le séisme est un symbole de puissance divine, et la présence craintive des gardes qui ne voient rien et ne comprennent rien, totalement bouleversés, et comme mort, réservant aux femmes davantage de sérénité, même si les anges les invitent à ne plus avoir peur et de ne pas avoir de crainte. Qui n'éprouverait pas quelque frayeur devant une telle situation? Quand Dieu entre dans notre histoire, personnelle ou collective, comment ne pas être chamboulé? Aujourd'hui encore, l'attitude des femmes nous invite en tout point à revisiter et ajuster la nôtre devant notre Dieu. Et même si effectivement elles ne sont pas venues dans la perspective de la résurrection, le texte nous dit « Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié », dit l'ange, elles demeurent disponibles à la nouveauté de Dieu. S'il est une activité humaine qui demande de l'imagination, c'est bien la pédagogie. Et s'il est un maître en ce domaine, c'est bien le Christ. Tout l'Évangile le montre. Ressuscité, il ne change pas sa manière de faire. Après une introduction tonitruante pour attirer l'attention et donner le ton de la rencontre, l'ange entreprend de préparer les cœurs. Descendu du ciel, roulant la pierre et s'étant assis dessus, symbole de la mort vaincue, il agit avec la puissance de Dieu. Son éclat écarte les gardes non concernés par la scène, réservant son discours aux deux femmes. En les rassurant et en leur révélant la vérité de leur intention, comme Jésus le fit jadis avec la Samaritaine, il leur révèle l'absence définitive dans le sépulcre, comme le tombeau vide s'imposait à Pierre et à Jean dans le quatrième évangile. Jean vit et il crut. Les deux maris ont besoin d'une parole qui éclaire et de mesurer l'espace à jamais libre. Enfin, pour les inviter à investir dans leur propre vie intérieure, l'ange souligne que cet événement, Jésus lui-même avait annoncé, souvenez-vous, dit-il, écho actuel du « Souviens-toi Israël, je suis le Dieu qui t'a libéré de l'esclavage ». Faire mémoire, relire dans l'unité les événements pour découvrir Dieu dans la vie, établir le lien entre le Jésus aimé parmi les vivants et mort sur la croix et celui qui arrive pas à pas à la reconnaissance de ceux qui l'ont suivi. Et moi, homme, femme, croyant du XIe siècle, quelle faculté, quel talent humain je décide de convoquer pour rencontrer mon Dieu, pour répondre à sa révélation, pour accueillir sa grâce. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, dit-on dans la tradition ignatienne. Au Dieu qui se donne, nous ne pouvons que donner. Dans Luc, on peut lire « Donnez » et il vous sera donné une mesure bien pleine. Dans cette libération donnée, est-ce que j'engage aussi ma liberté qui se conjugue dans ma mémoire et ma capacité de comprendre? Jusqu'où vais-je m'investir dans ce salut? L'ange et saint Ignace procèdent selon la même logique. Le sommet de la rencontre se vit sur le plan de la volonté. Ma volonté et de faire celle de mon Père. La volonté, synonyme de l'amour, elle indique un engagement, une espérance concrète, une mission, un appel qui se concrétise aussitôt par « vite, allez dire à ses disciples ». La résurrection n'est pas seulement objet de contemplation, elle est aussi mise en mouvement, déplacement et partage vers nos frères et sœurs dans la foi en humanité. Quitter le tombeau, cette expression signifie renoncer à nos anciennes images de Dieu qui ne se fait jamais sans une certaine hésitation. Mais si le vin nouveau réjouit le cœur de l'homme, rempli à la fois de crainte et de grande joie, il le met aussi en route. Tout est enfin prêt pour que Jésus se présente, se rende présent personnellement. Comme à son habitude, il vient à la rencontre et renouvelle la mission, non sans les avoir à nouveau apaisés. Quand Jésus choisit 12 apôtres pour être avec lui, aussitôt, comme si l'urgence indiquait la nature même de notre compagnonnage, il les envoie deux par deux. À peine ont-elles touché ses pieds, parce que l'incarnation continue, les femmes sont envoyées en mission vers la Galilée et la communauté chrétienne qui va connaître le même renouvellement. Tout le monde connaît l'effet papillon, du moins dans sa version vulgarisée. Un battement d'ailes de papillon pourrait provoquer par démultiplication une tornade ou un cyclone ailleurs sur notre planète. Ces deux phénomènes météorologiques sont connus pour leur grande capacité à déplacer de l'air, mais aussi pour leurs effets dévastateurs. Ce qui amène parfois à interpréter cette image de l'effet papillon comme un acte terrible qui peut être la cause de grandes catastrophes. Mais c'est oublier que ceci est valable aussi pour le bien. Un sourire peut transformer une vie, une main tendue en sauver une autre. La raison du Christ est un battement d'ailes au vu de l'histoire, mais elle est la source d'un souffle divin qui parcourt notre monde et nous en sommes les artisans. En Romains chapitre 5, on peut lire « Si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus le Christ. Et l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. La grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. » Touchés par la grâce, allons-nous aussi en Galilée pour propager le nouveau souffle divin.